Bien, alors, exercice un peu difficile, vous imaginez, du littéraire qui réagit à un discours de juriste intéressé et passionné par la littérature, discours évidemment tout à fait brillant comme on pouvait s'y attendre, et avec lequel je ne vais pas essayer de dialoguer comme ça en improvisant, ce serait un peu sot de ma part. Mais en fait, j'ai quand même été assez content de voir, je le soulignerai, que quelques-uns des exemples auxquels j'ai un peu naïvement songé en préparant cet exposé, eh bien, font bien écho, mais pas tous, heureusement, aux catégories proposées par François Host. Alors, d'abord, toute petite réflexion avant d'en faire, de vous en proposer trois. Une toute petite réflexion sur la difficulté qu'il y a toujours dans un dialogue de type interdisciplinaire. Puisque on a tendance un petit peu spontanément à se dire, ça va être bien, on va discuter entre personnes représentant des disciplines différentes, chacun vient au fond avec son paquet, et on va poser les mêmes questions aux deux paquets, et on va avoir des réponses qui vont pouvoir être confrontées. Mais évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça. Le propre de l'interdisciplinaire, c'est que généralement, il ne fonctionne pas, parce que les questions mêmes qu'on pose au paquet définissent la forme du paquet. Et par conséquent, l'historien de la littérature que je suis a tendance à s'interdire à proposer à son corpus le type de question extrêmement transversale qui permet de parler de Sade et d'Eschyle dans le même exposé. Donc la constitution même de notre corpus de référence est, pour des raisons de cohérence disciplinaire, profondément différente. Et donc, il ne faut pas exagérer l'attente non plus qu'on peut avoir en matière d'interdisciplinarité. Alors au fond, pour préparer cette espèce de dialogue, Je vous propose trois réflexions qui valent ce qu'elles valent, un peu naïves peut-être, je ne suis vraiment pas un spécialiste des rapports entre droit et littérature, mais questions un peu naïves ou réflexions un peu naïves que je me suis faites à partir du titre de l'exposé, c'est-à-dire essentiellement de la notion de figure du juge en littérature. Alors voilà. D'abord, une première remarque, qui est que, spontanément, moi je ferai une distinction assez forte entre la fonction du juge et la personne du juge, en matière de figure littéraire. Hein, la fonction de juger, en littérature, n'est pas le propre des juges. D'ailleurs, un certain nombre d'exemples auxquels on a fait allusion l'ont bien montré. Ce n'est pas toujours des juges qui sont en fonction de juger. Par exemple, le policier qui décide de tuer un assassin parce qu'il est en situation de le faire, parce que, dans certains cas, il se méfie des atermoiements de la justice, situation qu'on trouve dans plein de films ou dans plein de livres, c'est que le policier s'arroge le droit d'exercer la fonction du juge, et peut-être même du juge et du bourreau à la fois. Un seul exemple, vous connaissez peut-être, c'est une lecture qu'on a plus beaucoup aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ces romans, les romans policiers de Rex Stout, roman policier américain de l'entre-deux-guerres, dans lequel vous avez un détective extraordinaire, parce que c'est un obèse qui ne bouge pas. Hein? C'est le contraire du détective qui va chercher l'action, mais il a un second qui, lui, est un homme musclé, mais lui, il est monstrueux, il passe sa vie dans une serre, en serre chaude, à cultiver ses orchidées, et à la fin de toutes les aventures, toutes les enquêtes, de Nero Wolfe, ainsi s'appelle le détective, à la fin, Nero Wolfe convoque dans son bureau l'ensemble des protagonistes, ou au moins les survivants de ce qui s'est produit, et il organise, à la fois il dit son opinion, et très souvent il développe le châtiment que mérite selon lui l'un ou l'autre des coupables. Donc il est, en particulier par sa position d'immobilité, en position à la fois de faire l'enquête et aussi d'interpréter une espèce de doxa ou de bon sens qui lui permet de rendre la justice au fond, ou du moins d'incarner la fonction du juge. Inversement, toutes les personnes de juge en littérature ne jugent pas. Il y a des juges retraités, des juges débutants, des juges cocus, des juges parents de jeunes filles à marier, des ambitieux qui veulent faire carrière, des juges à l'arrière-plan qui se bornent à enregistrer les résultats d'une enquête. Bref, la fonction littéraire du personnage du juge n'est pas toujours de juger. Bon, voilà, un premier type de réflexion, mais je pense important aussi pour bien cadrer la discussion. Deuxième réflexion, qui est double, si on réfléchit sur l'image du juge dans la littérature, ça suppose un petit peu qu'on sache ce que c'est que la littérature. Et peut-être que ça pose un certain nombre de problèmes, et des problèmes de frontières, et des problèmes de langage. Alors d'abord le langage, et puis les frontières, et les frontières, me semble-t-il, vont être un petit peu plus pertinents par rapport à notre réflexion. Alors, problème du langage, les textes littéraires, vous le savez, ont d'habitude pour vocation de s'adresser à un public indéfini, actuel ou futur, proche ou lointain, et donc la capacité des textes littéraires à absorber des langages spécialisés requérant une formation technique ou scientifique est évidemment assez faible. On imagine peu un roman mettant en scène un physicien et dont le ressort principal du roman consisterait dans une équation mathématique à peu près inaccessible au commun des mortels. De la même manière, quand on met dans la bouche de personnages des questions juridiques, c'est évidemment rarement la transposition littérale du langage juridique. Il y a là un effet de passage, un effet de généralité du langage qui fait que le personnage qui parle de droit en littérature en parle généralement dans un langage qui peut intéresser le philosophe du droit, mais pas le technicien du droit, pour le dire très synthétiquement. Et donc, ça pose des problèmes aux romanciers, qui, même un romancier qui connaîtrait le langage technique du droit, aura tendance à ne pas l'insérer dans un cadre de type littéraire ou romanesque. Sauf dans les cas où apparaît une masse critique de lecteurs suffisante pour connaître les codes. C'est par exemple, vous savez, vous connaissez probablement les romans du monde universitaire, hein, les campus novels, pensez à David Lodge, qui est typique d'une situation où on considère qu'il y a une catégorie de public suffisamment large qui peut apprécier des choses qui normalement n'intéressent personne en termes sociaux. Bon, des problèmes de comment je parle avant lui dans un colloque. Tout le monde s'en fout, mais il y a suffisamment de gens dans le monde qui trouvent ça intéressant parce qu'ils y sont confrontés. Bon. Donc, on peut imaginer qu'il y a une littérature judiciaire à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui s'intéressent à ce genre de problème. Et ça, c'est le seul angle, enfin, c'est un des angles par lesquels notre dialogue, moi, m'intéresse dans mes recherches, c'est que, comme je travaille notamment sur Edmond Picard, dont je fais une biographie, Edmond Picard a été, en Belgique, à l'origine d'une littérature judiciaire. C'est-à-dire d'une littérature qui pose des problèmes de droit pour des avocats ou pour des praticiens du droit. Et là, on a un angle, et j'en parlerai très très brièvement tout à l'heure. Alors, l'autre question que je vous ai dit, c'est la question de la frontière. Et là, je fais un petit peu profession de dire que je ne sais pas très bien ce que c'est que la littérature, parce que ça permet de voir de la littérature, là on n'a pas l'habitude de la voir. Et j'ai notamment été intéressé par une affaire, pour toutes sortes de raisons, qui n'ont pas de raison d'être exposées dans les détails ici, mais une affaire qui a eu lieu à Bruxelles au XIXe siècle, qui était assez célèbre, qui est l'affaire Van der Smissen. Bon, c'est l'histoire d'un avocat qui tue sa femme parce qu'elle le trompe, et pire encore, elle l'a trompé avec Félicien Rops, ce qui est trompé deux fois, personne n'en doute. Et il tue sa femme, et puis il y a un énorme procès médiatique, on est dans les années 1885-86. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en lisant des romans, un roman en particulier, Chiennes d'enfer de Soumagne, qui est un roman judiciaire, mais aussi une espèce de reportage sur ce procès, j'ai été amené à aller regarder les différents journaux et ce qui s'est passé à l'époque. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de lire l'ensemble du procès avec un regard littéraire. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que tous les intervenants dans ce procès à un certain moment de l'histoire parlent de la même manière, parce qu'ils ont tous la même formation rhétorique. Ces différents intervenants, c'est d'une part, évidemment, dans le plan, sur le plan purement judiciaire, il y a l'exposé des faits par un premier magistrat, donc l'acte d'accusation. Mais si vous lisez l'acte d'accusation de l'affaire Van der Smissen, c'est une rhétorique de mélodrame. C'est une rhétorique de roman feuilleton qui apparaît. Je ne vais pas vous en citer des longs exemples, mais je peux vous les citer. C'est écrit comme un roman feuilleton. Et puis vous avez les plaidoiries des avocats, et les avocats, ils font quoi ? Ils font du pathos, ils ont lu Aristote, ils font du pathos pour toucher les jurés, et là, on a, même dans le phrasé et la découpe, on a un langage qui est celui de Gensu dans les Mystères de Paris. Cet homicide a-t-il été prémédité ? A-t-il tué ? Regardez ses mains, elles sont teintes de sang. A-t-il agi volontairement ? A-t-il tué sachant qu'il voulait tuer, etc. Y compris dans le fait que ces phrases sont les unes en dessous des autres, c'est exactement la structure du roman feuilleton. Et puis vous avez la presse qui s'en mêle, et la presse relaye, commente, et dans une certaine mesure oriente les débats, au point que les avocats sont obligés de dire dans l'affaire Van der Smissen, c'est devenu une affaire mondaine, et nous avons l'impression d'être au théâtre. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent assister au procès comme ils viennent au théâtre. C'est intéressant. Donc, le procès devient un lieu théâtral pour une société à un certain moment. Et puis, la littérature s'empare de l'affaire et en fait des reportages, voire des romans ou des fictions. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, où est le lieu du littéraire, là-dedans ? Est-ce que le lieu du littéraire, c'est uniquement le moment où quelqu'un dit « En tant que romancier, je vais parler de ceci ?» Ou est-ce que le lieu du littéraire, c'est le fait que l'avocat s'exprime de manière totalement littéraire, rhétorique et feuilletonesque ? Autrement dit, l'idée que les trois plans, le judiciaire, le médiatique et le littéraire, soient hermétiques les uns aux autres, l'idée que ces trois plans soient hermétiques les uns aux autres relève davantage, sans doute, de la fiction nécessaire au bon fonctionnement des institutions plutôt que de la vérité historique. Et donc là, on a des... question au moins sur les frontières du littéraire. Troisième réflexion, j'ai eu le sentiment, mais évidemment un certain nombre d'exemples proposés par François Host montrent ce qui est la stricte vérité, à savoir que j'ai travaillé assez vite, mais j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait au fond pas tellement de juges en littérature, comme personnage de juge, ayant pour fonction de juger, que l'on saisit dans l'acte de juger, et qui sont au cœur d'une intrigue littéraire. Il me semble qu'il n'y en a pas tellement. En tout cas, si on les compare au nombre d'avocats et au nombre de policiers. Et un grand nombre des juges auxquels j'ai pu songer comme ça rapidement sont en fait des juges dont la fonction est celle de juge d'instruction, qui se confondent alors tout à fait avec la fonction du policier ou du détective, en termes fonctionnels. Bon. Ce sont donc des juges qui tentent de résoudre une énigme plutôt que de poser de la question d'une certaine vérité. Et n'ayant pas les catégories proposées par François Host en tête, moi, c'est au fond la question de la vérité qui m'a intéressé. Et donc, voilà, je vous propose trois cas de figure. Le premier cas de figure de juge que j'ai repéré, c'est le cas du doute. C'est la conscience du juge qui intériorise les difficultés de juger. Et comme par hasard, c'est dans la littérature judiciaire dont je parlais tout à l'heure que l'on trouve un certain nombre d'exemples. Par exemple, chez Jules Destrée, avocat de profession, Le secret de Frédéric Marcinel est un récit dont le personnage principal est un juge qui va remettre en question tous les fondements et les valeurs à partir desquels il juge. Donc c'est le doute qui est la clé ou le registre principal. Deuxième exemple, mais qui la recoupe très très bien la catégorie 7 de François Host, c'est le juge qui ne juge pas bien. Effectivement, le juge qui n'a pas les mains propres. Et alors là, pour ajouter un exemple à la série de François Host, il y a la première collaboration de Goscinny avec Maurice. Maurice est donc le dessinateur de Lucky, le créateur du personnage de Lucky Luke. Et la première fois que Goscinny collabore avec Maurice, c'est pour écrire une BD qui s'appelle Le Juge. Et c'est un mauvais juge, c'est-à-dire un juge totalement injuste. Mais le récit est très intéressant parce que ce juge injuste finit par se juger lui-même. Il est obligé de se juger lui-même, il est à la fois juge et parti au sens strict, et il finit par se déclarer incapable de juger. Ce qui, me semble-t-il, est une catégorie de figures intéressante. Enfin, je termine par un exemple un tout petit peu plus long, qui est, comme ça, une des rares nouvelles ou petits romans que j'ai trouvé, dont le personnage principal est un juge, et c'est un petit roman de Balzac, qui s'appelle L'Instruction. Et L'Instruction, c'est très intéressant. Donc, c'est un bref roman, paru en feuilleton en 1836, qui figure dans les scènes de la vie parisienne d'abord, dans les scènes de la vie privée ensuite. Le personnage, c'est le juge Popineau, qui est le modèle du juge intègre. Il doit statuer sur la demande en interdiction que fait la marquise Despard à l'encontre de son mari, dont elle vit séparée depuis longtemps. Elle veut l'empêcher de voir ses deux enfants et surtout de gaspiller sa fortune parce que le mari en question est en train de donner toute sa fortune à une famille modeste qui s'appelle les Jean Renaud. Et pourquoi est-ce que ce monsieur donne sa fortune aux Jean Renaud auxquels il ne doit rien? Parce que l'ancêtre des Jean Renaud, un protestant, a été pendu de manière injuste, c'est bien confisqué, par l'arrière-grand-père du marquis Despard, qui veut en quelque sorte réparer cette injustice historique, et qui donc se ruine volontairement pour réparer cette injustice historique. La marquise prétend que son mari est devenu fou, mais le juge Popineau perçoit très vite que cette femme apparemment éplorée est une calculatrice sans scrupules et prête à tout. Après avoir rencontré séparément les parties, il s'apprête à débouter la marquise, mais celle-ci fait jouer ses relations et c'est le juge qui se voit dessaisi de l'affaire avant d'avoir pu rendre son arrêt. Alors pourquoi est-ce que cette nouvelle ou ce petit roman est particulièrement intéressant? Me semble-t-il parce qu'on va y retrouver plein de choses sur la construction du personnage du juge. Alors première chose qu'on y trouve, le fait que le juge, précisément, n'est pas le seul personnage à qui est accordée la capacité de juger. En fait, le juge est présenté à la marquise par son neveu, qui est un médecin. Ce médecin s'appelle Bianchon, et le médecin comprend bien avant le juge que la marquise est une femme intéressée. Et voilà ce que le médecin dit. Les médecins sont habitués à juger les hommes et les choses. Les plus habiles d'entre nous confessent l'âme en confessant le corps. Autrement dit, dans une phrase, Balzac nous dit, les figures du jugement, c'est le médecin, il en a la compétence, le prêtre et le juge. Ce seront les trois figures de jugé qui habitent le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage du juge est dépeint, comme toujours chez Balzac, avec une énorme attention portée aux éléments extérieurs qui contrastent avec les éléments intérieurs ou qui les expliquent. Il y a toujours une relation de déterminisme entre l'extérieur et l'intérieur. Et en particulier, ce magistrat est particulièrement laid. Et il est non seulement laid de corps, mais il est laid à cause de son habitude d'être juge. C'est le palais qui le déforme. Il passe ses journées. Le plus florissant jeune homme devient une pâle machine à considérants, une mécanique appliquant le code sur tous les cas avec le flegme des volants d'une horloge. Si donc la nature avait doué M. Popineau d'un extérieur peu agréable, la magistrature ne l'avait pas embelli. Bon. Donc il est particulièrement laid et particulièrement moche, mais évidemment c'est un grand juge, c'est un juge intègre, c'est un juge qui voit clair. Et que peut-on faire quand on n'est pas honnête et qu'on a affaire à un juge qui voit clair ? La marquise, aidée par Rastignac, le sait, et on assiste à ce micro-dialogue qui va annoncer la fin de l'histoire entre le médecin Bianchon et Rastignac. « Mon cher, que veux-tu que j'y fasse ?» dit Bianchon. « Ne t'ai-je pas prévenu ? Ce n'est pas un homme coulant, le juge. » Réponse de Rastignac. « Non, dit Rastignac, c'est un homme à couler. » Et de fait, la fin montre que le juge se verra interdit de rendre son jugement, c'est-à-dire qu'au fond, la figure du juge intègre est renvoyée à l'injustice sociale, ce héros positif est impuissant, et que le seul juge au cœur de la comédie humaine soit un empêché de juger, me semble-t-il, est un élément du débat sur lequel je crois qu'on peut rebondir. Voilà. Merci.
Oui, je serai vraiment très bref parce que je pense qu'il y a plus de choses intéressantes dans la salle. Je serai vraiment très très bref. Un, sur l'interdisciplinarité, entièrement d'accord. Elle est à la fois nécessaire et impossible, comme la traduction. Et donc, il faut toujours être extrêmement attentif à qui fait les questions, qui prend l'initiative. Je pense que c'est juste... Au mieux, c'était un dialogue coopératif, comme dans une traduction. Mais donc, ça veut dire beaucoup de malentendus. Et, voilà. Si on est déjà d'accord sur nos malentendus, c'est déjà énorme. Mais j'y crois plus que jamais. C'est. Deuxièmement, j'étais très frappé, tout à fait d'accord sur distinguer fonction de jugé et personne du juge. Et il y a beaucoup d'autres gens que le juge qui juge. C'est vrai. Je m'en ai pas rendu compte, mais c'était peut-être aussi ce que j'ai essayé de dire avec tout mon tableau de droit de justice privée. Mais je l'ai pas présenté comme ça et ça m'éclaire beaucoup. Sur les frontières de la littérature, je ne me risquerai pas à intervenir dans ce débat. Simplement, je voudrais dire que c'est vrai, c'est très intéressant ces regards mixtes. Et un auteur sur lequel j'avais travaillé, qui était Antoine Furtière, donc au XVIIe siècle classique, le seul académicien de l'Académie française qui n'ait jamais été mis à la porte, était juriste et lexicographe, et il a entamé un procès immense. 700 pages ont été publiées de ses factums, et ses factums, c'est merveilleux, on se marre, c'est vraiment c'est un très bon écrivain qui raconte de l'intérieur toutes les faiblesses de ses collègues académiciens qui dorment, qui racontent n'importe quoi, et en même temps, c'est son procès, il se défend très bien juridiquement. Et ça se vendait, paraît-il, comme des petits pains, les gens achetaient, donc c'était une littérature. Donc, je crois beaucoup, et c'est l'occasion de dire au passage, ce que tu sais mieux que personne, c'est combien nombreux sont les cas donc d'écrivains connus qui ont entamé ou même achevé des études de droit, voire même pratiqué le droit toute leur vie, comme Kafka, par exemple. Le doute, c'est tout à fait central. Le juge qui ne juge pas bien, cette BD, ça j'aimerais beaucoup la voir.
Je ne sais pas si tu l'as.
Oui, je l'ai, je peux te la prêter. On va s'échanger les BD. C'est bien les films.
Maurice, c'est aussi Lucky Luke. Hein. Lucky Luke, il y a pas mal de juges.
C'est dans Lucky Luke.
Oui, c'est ça. Oui, c'est
Goscinny a été appelé à la rescousse pour améliorer le synopsis, le scénario, et ajouter des calembours, mais le dessin reste celui de Maurice tout au long de la série. Plusieurs juges, effectivement.
Oui, tout à fait. Et alors Balzac, il y a un gros livre qui vient de paraître sur Balzac dans la littérature, c'est un colloque de la littérature, et ce qui est passionnant chez Balzac, c'est qu'il y a tout, y compris parfois alors du droit technique aussi. Alors pour le coup, c'est un des rares auteurs à parfois être extrêmement technique, parce qu'il avait travaillé dans l'étude d'un clerc de notaire, il connaissait très très bien le droit de l'intérieur.
Il a eu quelques procès aussi.
Il a eu lui-même quelques procès, etc.